4. Allô, c'est vous, Docteur Z?
Brady n'a pas le temps de jouer au plus malin. La neige épaissit de seconde en seconde, et la Malibu pourrie de Z-Boy, sans pneus neige et avec près de 200 000 bornes au compteur, ne sera pas de taille face à la tempête quand elle aura commencé à se déchaîner. En d'autres circonstances, il voudrait savoir comment il se fait qu'elle soit encore en vie. Mais comme il ne peut pas faire demi-tour pour rectifier le tir, la question se pose même pas.
« Tu sais qui c'est, et moi je sais ce que t'as essayé de faire. Recommence, et je t'envoie les types qui surveillent ton immeuble. T'as de la chance d'être en vie, Freddy. Si j'étais toi, je tenterais pas le sort une deuxième fois. »
« Je regrette. » Elle chuchote presque. « C'est plus la gonzesse enragée, moi je t'emmerde et j'emmerde ta mère, avec qui Brady bossait à la cyberpatrouille. » Mais elle n'est pas encore brisée, sans quoi elle n'aurait pas essayé de foutre en l'air son matos informatique.
« As-tu parlé à quelqu'un ?»«
Non !» Elle a l'air horrifiée à cette idée. C'est bien qu'elle soit horrifiée.
« Tu comptes le faire ?»«
Non !»
C'est la bonne réponse. Parce que si tu le fais, je le saurai. T'es sous surveillance, Freddy. Souviens-t'en.
Il coupe la communication sans attendre de réponse, plus furieux parce qu'elle est en vie que pour ce qu'elle a essayé de faire. Croira-t-elle que des types fictifs surveillent son immeuble alors qu'il l'a laissée pour morte? Oui, il le pense. Elle a eu affaire à Dr. Z aussi bien qu'à Z-Boy. Qui sait combien d'autres drones il a sous ses ordres? Dans tous les cas, il ne peut plus y faire grand-chose. Brady a longtemps reproché ses problèmes aux autres, et maintenant il reproche à Freddy de ne pas être morte quand elle aurait dû. Il enclenche le levier de vitesse de la Malibu et appuie sur le champignon. Les pneus dérapent sur le mince tapis de neige qui recouvre le parking du Porno Palace défunt, mais adhère une fois revenu sur l'asphalte de la Nationale où les bas-côtés sont en train de virer au blanc. Brady pousse la voiture de Z-Boy à 100. Bientôt ce sera trop vite pour les conditions météo, mais il est décidé à garder l'aiguille calée là, aussi longtemps qu'il pourra.
5.
Finder Keepers partage les toilettes du 7e étage avec l'agence de voyage. Mais pour l'instant, Hodges a la partie homme pour lui tout seul, et il en est reconnaissant. Il est penché au-dessus d'un des lavabos, main droite agrippée au rebord de faïence, main gauche pressée contre son flanc. Sa ceinture est encore dégrafée, et son pantalon pend un peu en dessous de ses hanches, sous le poids du contenu de ses poches, petites pièces, clés, porte-monnaie, téléphone. Il est venu ici pour chier, une fonction d'excrétion ordinaire qu'il a pratiquée toute sa vie. Mais quand il a commencé à pousser, une explosion nucléaire s'est produite dans son flanc gauche. À côté, sa douleur antérieure ressemblait à des notes d'échauffement avant que le concert lui-même commence. Et si ça fait aussi mal maintenant, il a peur de penser à ce qu'il attend. « Non, se dit-il, peur n'est pas le mot qui convient. C'est terreur. Pour la première fois de ma vie, je suis terrifié par l'avenir. Quand tout ce que je suis, tout ce que j'ai pu être, sera d'abord submergé, puis effacé. Et si c'est pas la douleur elle-même qui s'en charge, alors ce seront les drogues plus lourdes qu'ils me donneront pour la calmer. » Maintenant, il comprend pourquoi le cancer du pancréas est appelé cancer furtif, et pourquoi il est quasiment toujours mortel. Il s'embusque, rassemblant ses troupes et envoyant des émissaires secrets aux poumons, aux ganglions lymphatiques, aux os, au cerveau. Puis il lance la guerre éclair, sans comprendre, dans sa rapacité stupide, qu'il ne récoltera que sa propre mort dans la victoire. Sauf que c'est peut-être ce qu'il désire, se dit Hodges. Peut-être que c'est de la haine de soi, avec laquelle naît le désir non pas d'assassiner son hôte, mais de se tuer soi, ce qui fait du cancer l'authentique prince du suicide. Il se délivre d'un long rot sonore et se sent un peu mieux. Va savoir pourquoi. Ça ne durera pas, mais tout soulagement, même passager, est bon à prendre. Il secoue son flacon d'antidouleur pour en extraire 3 comprimés. Déjà, il trouve que c'est comme tenter d'arrêter la charge d'un éléphant avec un pistolet à bouchon, et les avale avec l'eau du robinet. Puis il s'asperge le visage d'un peu d'eau froide, essayant de se redonner un peu de couleur. Comme ça ne marche pas, il se gifle violemment, 2 bonnes baffes sur chaque joue. Ni Holly ni Jérôme ne doivent savoir à quel point ça s'est aggravé. On lui a promis 7 journées, et il compte en utiliser chaque minute, jusqu'aux 12 coups de minuit s'il le faut. Il sort des toilettes, se rappelant à lui-même de se tenir droit et d'éviter de presser son flanc, quand son téléphone se met à vibrer. Pete, prêt à reprendre son marathon anti-salope, se dit-il. Mais non, ce n'est pas lui, c'est Norma Villemer. « J'ai trouvé ce fameux fichier, » annonce-t-elle, « que feu la vénérable Ruth Scapelli ?»«
Oui, » dit-il, « la liste des visiteurs. Qu'y a-t-il dessus ?»«
Il n'y a aucune liste. » Il s'appuie contre le mur et ferme les yeux.
« Ah merde !»«
Mais il y a une note de service en tête de Babineau qui dit, je cite, « Frederica Linklater admise pendant les heures de visite et en dehors. » Sa présence facilite la guérison de B. Hartsfield. Ça peut vous aider ?
Une fille avec une coupe en brosse de marine, se dit Hodges. Une nana masculine, toute tatouée. Sur le moment, ça lui avait vaguement dit quelque chose. Et il sait tout à coup pourquoi.
Il a rencontré une fille maigrichonne avec une coupe en porte-avions en 2010 à Discount Electronics, quand Jérôme, Holly et lui refermer les mailles du filet sur Brady. 6 ans après, il se souvient encore de sa remarque.
« Ses rapports à sa mère, je vous parierai n'importe quoi, il n'est pas clair avec elle. »«
Vous êtes toujours là ?»
Norma a l'air agacée.
« Ouais, mais il faut que j'y aille. »«
Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait un peu plus d'argent si... »«
Ouais, je penserai à vous, Norma. » Et il raccroche.
Les comprimés font leur travail. Et il parvient à retourner au bureau d'une démarche assez rapide. Holly et Jérôme sont à la fenêtre surplombant Marlborough Street, et ils parieraient, à voir leur mine quand ils se retournent en entendant la porte s'ouvrir, qu'ils étaient en train de parler de lui.
Mais il n'a pas de temps à perdre à penser à ça, ni à le ruminer. Ce à quoi il pense, c'est à ses appits trafiqués.
La question qui se pose, depuis le moment où ils ont commencé à piger tout le truc, c'est comment Brady, cloué dans une chambre d'hôpital, et à peine capable de marcher, a pu jouer un rôle quelconque dans leur modification.
Mais il connaissait quelqu'un, n'est-ce pas ?
Quelqu'un possédant les compétences requises pour le faire à sa place.
Quelqu'un avec qui il avait travaillé naguère.
Quelqu'un qui venait lui rendre visite au bocal, avec l'accord écrit de Babineau.
Une nana, style punk, pas mal tatouée, et plutôt grande gueule. Le visiteur de Brady, la visiteuse. Sa seule visiteuse était une jeune femme du nom de Frederica Linklater. Elle...
« La cyberpatrouille !»
Holly l'a presque hurlé.
« Il travaillait avec elle ?»
Exact. Il y avait aussi un troisième larron. Leur boss, je crois bien. Est-ce que l'un de vous se rappelle son nom ?
Holly et Jérôme se regardent et secouent la tête. « Ça fait longtemps, Bill, » dit Jérôme. « Et on se concentrait sur Hartsfield à l'époque. »«
Oui, si je me souviens de Linklater... » C'est qu'elle était du genre inoubliable.
« Je peux utiliser ton ordinateur ?» demande Jérôme. « Je vais essayer de retrouver le gars pendant que Holly cherche l'adresse de la fille.
Vas-y, te gêne pas. »
Holly a déjà rejoint le sien. Assise, droite comme un « i », elle tape furieusement. Elle parle aussi à voix haute, comme elle le fait souvent quand elle est profondément absorbée par sa tâche.
« Merde ! Pas d'adresse ni de numéro de téléphone dans les pages blanches. » J'aurais dû m'en douter. Beaucoup de femmes seules n'ont pas... Attends, pas besoin du touffu téléphone. J'ai sa page Facebook.
Je me fous un peu de ses photos de vacances et de savoir combien elle a d'amis, lui dit Hodges.
Tu es sûr de ça? Parce qu'elle a seulement 6 amis, et l'un d'entre eux est Anthony Frobisher. Je suis quasiment sûr que c'était le nom du...
Frobisher! Crie Jérôme depuis le bureau de Hodges. Anthony Frobisher était le 3e larron de la cyberpatrouille.
« Je t'ai battu, Jérôme !»
dit Holly. Elle arbore un petit sourire fiero.
« Encore !»
6. Contrairement à Frederica Linklater, Anthony Frobisher figure dans les pages blanches, sous son nom et sous celui de votre cyber-gourou. Les 2 numéros de téléphone sont identiques.
« Un portable, suppose Hodges. »
Il chasse Jérôme de son fauteuil de bureau et s'y installe, lentement et précautionneusement. L'explosion de douleur qu'il a ressentie sur les toilettes est encore fraîche dans son esprit. Ça décroche à la première sonnerie.
« Cyber-gourou Tony Frobisher, j'écoute. Que puis-je pour vous ?»«
Monsieur Frobisher,
Ici Bill Hodges. Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi, mais...
Oh que si, je me souviens parfaitement de vous.
Le ton de Frobisher est méfiant.
Que voulez-vous? Si c'est à propos de Hartsfield?
C'est au sujet de Frederica Linklater. Auriez-vous son adresse actuelle?
Freddy? Pourquoi diable est-ce que j'aurais son adresse?
Je ne l'ai pas revue depuis la fermeture de Discount Electronics.
Vraiment?
D'après sa page Facebook, vous êtes amis. Frobisher lâche un rire incrédule.
Elle a qui d'autre dans sa liste? Kim Jong-un? Charles Manson?
Écoutez, monsieur Hodges, cette garce grande gueule a zéro ami. Son seul pseudo-ami, c'était Hartsfield. Et je viens de recevoir une notification push sur mon téléphone comme quoi il est mort.
Hodges n'a aucune idée de ce qu'est une notification push et aucune envie de s'instruire. Il remercie Frobisher et raccroche. Il soupçonne qu'aucun des 6 amis Facebook de Freddy Linklater n'est réel, qu'elle les a juste ajoutés pour éviter de se sentir comme une totale paria.
Holly aurait pu faire la même chose à une époque révolue de sa vie, mais aujourd'hui, elle a réellement des amis. Elle a de la chance, et ses amis aussi.
Ce qui ne répond pas à sa question. Comment il fait maintenant pour localiser Freddy?
Leur boîte, à Holly et lui, ne s'appelle pas Finder Keepers pour rien. Mais la plupart de leurs moteurs de recherche spécialisés sont conçus pour localiser des gens peu recommandables, avec des amis peu recommandables, des casiers judiciaires chargés et des avis de recherche colorés. Sûr, il peut la retrouver. En cette ère informatique, peu de gens arrivent à disparaître complètement du radar. Mais il faut qu'ils fassent vite. Chaque fois qu'un gamin allume un de ces apps gratuits, il télécharge des poissons roses, des flashs bleus et, d'après l'expérience vécue par Jérôme, des messages subliminaux suggérant qu'une visite sur The End s'impose.
C'est toi le détective.
Détective cancéreux, certes, mais détective quand même. Alors laisse tomber toutes les pensées annexes et détecte.
D'accord, mais c'est dur.
La pensée de tous ces gamins, que Brady a déjà essayé de tuer au concert des Round Here, n'arrête pas d'interférer. La sœur de Jérôme en faisait partie. Et sans Derris Neville, Barbara pourrait être morte à l'heure qu'il est, au lieu d'avoir seulement une jambe dans le plâtre. Peut-être que sa console était un prototype d'essai, et celle de Madame Ellerton aussi. Ce serait logique. Mais maintenant, il y a tous ces autres apites dans la nature, un raz-de-marée. Et ils ont bien dû atterrir quelque part, nom de Dieu. Enfin, une lumière s'allume dans son cerveau.
Holly, il me faut un numéro de téléphone.